RCF. RCF, il est 19h. Le journal, Baptiste Madigné.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. À la une de l'actualité ce soir, le choléra gagne du terrain à Mayotte. 26 cas recensés depuis mi-mars. Des opérations de vaccination et de dépistage sont en cours. L'ARS va ouvrir une deuxième unité médicale. On y fait le point dans un instant. En Espagne, le leader socialiste Pedro Sanchez ne démissionnera pas. Le Premier ministre a réussi un nouveau tour de force politique. Et puis les taux d'intérêt vont-ils baisser d'ici l'été? Ce serait une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français. On pose la question dans notre long format ce soir. C'est une nouvelle menace qui pèse sur Mayotte. Après le manque et les restrictions d'eau et après l'insécurité, le département français doit faire face à la propagation des cas de choléra. Depuis le 19 mars, 26 cas ont été détectés. La majorité sont apportés des Comores où une épidémie est en cours. Mais les trois premiers cas autochtones se sont déclarés en fin de semaine dernière. La stratégie de l'ARS se focalise sur la commune de Kungu, au nord de Mayotte, où ont été recensés ces cas, avec pour l'instant le but d'étouffer le risque d'épidémie. Écoutez, Bastien Morvan, il est directeur de cabinet à l'ARS de Mayotte.
Nous, on concentre aujourd'hui tous nos moyens et tous nos efforts sur la commune de Kungu. On a identifié les derniers cas et donc on déploie des opérations importantes sur place pour justement essayer de limiter au maximum la diffusion de la bactérie. Nos modalités d'intervention reposent sur une logique d'intervention massive autour, là en l'occurrence, d'un groupement de cas et donc qui se font selon trois modalités. Donc d'une part, la vaccination élargie auprès de la population du secteur concerné. Deuxièmement, la mise en place d'un centre de dépistage avancé donc au niveau de la commune qui permet d'orienter rapidement en cas de test positif les patients vers l'hôpital. Et troisièmement, la poursuite des maraudes avec les médiateurs sanitaires et les associations avec lesquelles on travaille habituellement dans la zone pour d'une part partager les recommandations sanitaires, d'autre part orienter vers les dispositifs de dépistage et vaccination.
Au niveau hospitalier, une deuxième unité choléra a été ouverte, la première étant déjà saturée. Des soignants vont venir en renfort aux équipes sur place. Ils devraient arriver à Mayotte dans les prochains jours. Dans le reste de l'actualité ce soir, le monde suspendu à l'espoir d'une trêve à Gaza. Une réunion était prévue cet après-midi au Caire entre l'Égypte, le Qatar et le Hamas. Les discussions portent sur un texte modifié par Israël et la réponse du mouvement palestinien est très attendue. Pour l'instant, seuls quelques éléments ont filtré de cette réunion, notamment ce sont les propos du ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron depuis l'Arabie Saoudite où il est en déplacement. Il a affirmé que la proposition présentée au Hamas proposait un cessez-le-feu de 40 jours associé à la libération d'otages et de prisonniers. Dans le même temps, en France, la police est intervenue au sein de la Sorbonne cet après-midi. Les forces de l'ordre ont évacué une cinquantaine de militants pro-palestiniens qui avaient installé des tentes à l'intérieur de l'université. La semaine dernière, c'est à Sciences Po Paris qui avait été le théâtre de tensions et de blocages. Je vous le disais en titre, en Espagne, nouveau tour de force politique. Après avoir laissé planer pendant 5 jours la menace d'une possible démission, le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a annoncé tout à l'heure son intention de rester au pouvoir, au grand dam de la droite qu'il accuse de s'être moqué des Espagnols. Le leader de la gauche a en fait ouvert la porte de cette démission après l'annonce d'une enquête contre sa femme pour corruption et trafic d'influence. Avec ses atermoiements, le Premier ministre espagnol a réussi sa manœuvre politique, une manifestation de soutien a rallié des milliers de sympathisants et les cadres du parti l'ont largement appuyé ces derniers jours. Écoutez l'analyse ce soir du politologue Benoît Pellistrandi, spécialiste de l'Espagne.
Il s'agissait d'une manœuvre tactique admirablement exécutée pour sortir son gouvernement de la position de fragilité dans laquelle il était enfermé et que la révélation de plusieurs scandales de corruption et les soupçons visant sa femme contribuaient à fragiliser. Ce qu'a réussi Pedro Sanchez, c'est à renforcer son leadership et à continuer de faire de sa personne la clé de voûte de tout le dispositif, pas simplement socialiste, mais le dispositif progressiste. C'est ainsi qu'il dénomme sa majorité. Et Pedro Sanchez, avec un art du suspense et un art de la mise en scène consommé, a réussi, en fait, à retourner un peu la situation, au moins d'un point de vue émotionnel et affectif, et à faire de cette séquence un grand affrontement entre la gauche et la droite, alors qu'en réalité, il s'agissait de bien autre chose.
À l'inverse, le Premier ministre écossais Yuma Yousaf a annoncé tout à l'heure sa démission. Il y a quelques jours, son parti indépendantiste, le SNP, a mis fin à la coalition avec les écologistes. Le Parlement écossais a désormais 28 jours pour trouver un nouveau Premier ministre. Les taux directeurs vont-ils enfin baisser? C'est la question de notre long format ce soir et c'est l'espoir entretenu par la Banque Centrale Européenne et la Banque de France. Après des mois de hausse des taux d'intérêt pour enrayer l'inflation, ces taux pourraient enfin descendre en juin prochain afin de dynamiser l'économie de la zone euro qui souffre de ce régime. Alors pour bien comprendre cette potentielle baisse des taux d'intérêt, Suzanne Marion interroge ce soir Cyril Blesson, économiste à Père Conseil qui produit les cahiers de l'épargne. Il est également enseignant associé à l'Université Paris-Dauphine en financement de l'économie.
Bonjour Cyril Blesson.
Bonjour.
Il y a quelques jours, le gouverneur de la Banque de France a annoncé que les taux d'intérêt allaient baisser. Pourquoi on peut prévoir cette baisse des taux d'intérêt ?
Alors, on peut prévoir cette baisse des taux d'intérêt pour plusieurs raisons. La principale étant l'accalmie très très nette de l'inflation dans l'ensemble de la zone euro, qui avait connu un pic en octobre 2023 bien supérieur à 10% et qui, à présent, s'est fortement calmé puisque on était au-dessus de 10% et à la dernière lecture de l'inflation connue en zone euro, on est tombé à 2,4% de hausse des prix sur un an. Et ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur aussi, c'est que par ailleurs, l'économie européenne ralentit très fortement. Elle est en quasi-récession depuis un certain nombre de trimestres. Elle stagne. Il y a une dynamique de l'emploi qui s'est un peu enrayée. Et il y a donc des pressions inflationnistes qu'on va qualifier de domestiques, liées à la hausse des salaires, liées à la hausse des prix, parce que, par exemple, les entreprises feraient face à une demande très forte et pourraient se permettre d'augmenter les prix, qui s'est fortement atténuée maintenant, puisqu'au contraire, la demande des atones et les entreprises n'ont plus tellement le potentiel d'augmenter leurs prix. Donc on est sur un ralentissement très net de l'inflation et un climat d'ensemble de l'économie qui par ailleurs ne suggère pas un rebond de cette dernière.
Et concrètement, pour comprendre ces taux d'intérêt, comment ils se définissent et à quoi ils servent ?
Alors, les taux d'intérêt que fixe la Banque centrale, on va dire simplement que c'est les taux d'intérêt auxquels les banques, elles, peuvent se refinancer auprès de la Banque centrale. Et ensuite, avec ces taux d'intérêt, elles fixent les conditions du crédit auxquelles elles prêtent aux différents agents économiques. Par exemple, pour un particulier, on pense tout de suite au Crédit Habitat, par exemple. Et alors, ces taux d'intérêt que fixe la Banque centrale sont un peu ce qu'on appelle des taux directeurs de l'ensemble des autres taux d'intérêt pratiqués dans l'économie. Donc quand la Banque centrale monte ses taux d'intérêt, elle vise à ralentir l'activité et en particulier à ralentir les activités de crédit en durcissant un peu les conditions de ce dernier. Aujourd'hui, comme l'économie est affaiblie, quasiment en stagnation comme je l'ai dit, et qu'il n'y a plus de pression inflationniste, la Banque centrale ressent moins le besoin d'avoir des taux d'intérêt qui pénalisent l'activité et donc elle desserre un petit peu son étreinte. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'elle va ramener les taux d'intérêt immédiatement au niveau qui prévalait avant le choc inflationniste, mais en tous les cas, elle va commencer à les baisser.
Et donc, cette baisse des taux d'intérêt, est-ce qu'elle va avoir des conséquences concrètes dans la vie quotidienne des Français, par exemple ?
Ah bah, bien évidemment, les taux d'intérêt, c'est ce qui s'applique ensuite à vos crédits, donc crédit conso, crédit habitat. Donc déjà, pour tous les gens qui ont un projet immobilier, ça veut dire que les conditions de crédit qui leur sont offertes vont petit à petit s'assouplir. Pour les gens qui font du crédit conso, de la même façon, ils vont subir des taux d'intérêt appliqués à leur crédit conso un peu moins fort. Puis il y a d'autres canaux, bien entendu, qui passent pas par les ménages forcément, mais qui finissent par répercuter la vie des ménages. Par exemple, si les entreprises investissent plus parce que les conditions de crédit qu'on leur propose sont plus attractives, ça dynamise l'activité, donc ça dynamise l'emploi, donc ça dynamise aussi la situation des ménages. Voilà.
Et donc, ça va permettre d'avoir un meilleur pouvoir d'achat et...
Alors, c'est pas immédiat, C'est pas immédiat du tout, Entre le moment où la Banque centrale commence à baisser les taux et le moment où l'activité se redresse, y a des délais de quelques trimestres, donc c'est pas instantané. Mais à terme, bien évidemment, une banque centrale qui baisse les taux, ça vise à redynamiser l'activité, et une banque centrale qui les durcit, ça vise à la freiner. Donc, bien évidemment, qu'on rentre dans une phase où la banque centrale baisse ses taux, c'est un signal positif, mais c'est un signal qui va mettre du temps à se diffuser pour aller jusqu'au secteur ménage. À court terme, les ménages qui vont voir surtout, c'est que les taux des crédits vont être moins élevés. Potentiellement aussi, les taux sur leurs produits d'épargne vont être moins élevés. Donc, il y a toujours une contrepartie, bien sûr. On peut pas avoir des crédits pas chers et puis de l'épargne avec des taux d'intérêt très élevés. Hein. En économie, on a tendance un peu à dire qu'il y a qu'un seul taux d'intérêt, hein, un pour les crédits et pour l'épargne. Voilà comment ça va impacter les ménages français. Et après, l'impact sur l'activité, il est plus long à se matérialiser, mais il se matérialisera après quelques trimestres en relançant l'activité.
Et le gouverneur de la Banque de France a aussi dit que l'Europe était en avance sur cette baisse des taux d'intérêt par rapport aux États-Unis. Pour quelles raisons ?
Alors, en partie parce que aux États-Unis, l'activité économique est restée très dynamique malgré les hausses de taux de la Banque centrale américaine. Et elle est restée très dynamique parce que dans le même temps, le gouvernement Biden mène une politique budgétaire, si vous voulez, le budget de l'État, les dépenses publiques, etc., extrêmement expansionniste et qui porte l'activité malgré des taux d'intérêt plus élevés qui pénalisent le crédit. Et donc, on a une dynamique de l'économie américaine qui est très forte, ce qui va faire hésiter la Banque centrale américaine à baisser ses taux trop vite, de peur que l'inflation ne revienne. Phénomène qu'on ne connaît pas en Europe, où l'économie européenne est, comme je l'ai dit, atone, sans dynamisme très fort à court terme. Et donc, la Banque centrale peut baisser ses taux pour essayer un peu de la redynamiser. Alors qu'aux États-Unis, l'activité économique continue de caracoler malgré les hausses de taux.
Eh bien, merci beaucoup, Cyril Blesson. Je rappelle que vous êtes économiste chez Père Conseil, qui produit notamment les cahiers de l'épargne, et enseignant associé à l'Université Paris-Dauphine.
Et merci à vous, Suzanne Marion. C'est un entretien à retrouver en intégralité sur rcf.fr. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une bonne soirée à tous à l'écoute de RCF.